Bienvenue dans le podcast Tech de Ayrton. Je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'Internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site ayrton.fr. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler développement mobile. On reçoit Olivier Goutet, cofondateur de la société Openium, qui depuis 2008 réalise des applications mobiles. Donc on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Et Openium surtout a rejoint Ayrton il y a quelques mois maintenant. Donc aujourd'hui, on est à Clermont-Ferrand chez vous.
Bienvenue Charlie.
Merci beaucoup Olivier. Donc 16 ans de développement mobile, est-ce que ça veut dire que c'est bon, développer une application mobile, c'est dans la poche, c'est une affaire réglée?
Le développement d'applications mobiles a beaucoup évolué hein, depuis 2008, quand le SDK iOS est sorti et qu'on a pu commencer à développer ce qu'on appelle des applications mobiles modernes. Avant, les plus anciens d'entre nous se souvenaient de BlackBerry, se souvenaient de Symbian sur Nokia. Et donc le développement mobile nouvelle génération est apparu à partir de 2008 et a beaucoup évolué. On est parti de plateformes qui étaient des plateformes embarquées avec assez peu de puissance, 2008, 2009, 2010, jusqu'au monstre de puissance multicœur qu'on a actuellement. Donc les plateformes techniques ont beaucoup évolué, le développement mobile a suivi. Donc c'est pas encore tout à fait une affaire réglée, mais on se retrouve quand même à avoir un confort de développement qu'on n'avait pas dans les premières années.
D'accord, donc les contraintes matérielles des premières années sont effacées. Pour laisser de la place, ça a quoi alors ?
Bah pour laisser la place à donc un écosystème mobile. Quand on parle de développement mobile, on va parler de smartphones, bien entendu, Apple et Android, mais on va aussi parler de Apple CarPlay, de Android Auto, de TV connecté et des montres connectées. Et tout ça, c'est l'écosystème mobile. La plupart de ces devices-là gardent quand même la contrainte principale du développement mobile, c'est qu'on a une batterie et que le soir, on aime bien encore toujours avoir de la batterie. Et donc, le développement mobile doit prendre ça en compte, comme on a par exemple dans votre métier Ayrton avec le développement embarqué quand on est sur batterie.
C'est quoi les évolutions les plus notables pour toi sur ces années passées ? Est-ce qu'on développe différemment aujourd'hui d'il y a 5 ans par exemple ?
Alors les méthodes de développement évoluent en continu. Donc là vraiment on est sur un monde qui s'est construit en 16 ans, qui est parti de zéro jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Donc on a vraiment une différence sur les outils de développement qui sont maintenant extrêmement perfectionnés et tous les 4, 5, 6 ans, on se retrouve à avoir une nouvelle génération avec un nouveau langage de développement, un nouveau framework, que ce soit sur iOS ou sur Android. Et donc ça impacte le quotidien des développeurs. Mais côté utilisateur, on a des applications qui à la base étaient des applications très basiques. On se souvient du sabre laser, on lançait sur notre iPhone le sabre laser et puis on pouvait le faire bouger, c'était drôle, mais ça ne servait pas à grand-chose. Maintenant, on a des applications qui sont très complexes, avec notamment une priorité qui est de répondre à un besoin utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qui oriente beaucoup les développements parce que la question maintenant, c'est pas de faire une application mobile, c'est à quoi elle va servir.
Avec tout cet écosystème, enfin, ces outils de développement plus évolués, est-ce que c'est devenu plus accessible de développer de l'application mobile ? Et de l'autre côté, quelle différence on fait entre un développeur novice et un développeur expérimenté ? Sur quoi on va voir cette différence ?
Il y a plusieurs manières de développer une application. Ça va de faire un site web responsive à une application mobile dite native qui utilise les composants et les SDK fournis par Apple et par Google. Le niveau de complexité évolue en fonction des solutions qu'on choisit, et au milieu entre la page web responsive et l'application native, on se retrouve avec des applications dites hybrides ou multiplateformes qui sont des solutions intermédiaires à la fois en qualité de développement et qualité perçue pour l'utilisateur entre le site web responsive qui va être un peu l'entrée de gamme et le développement natif qui est le haut de gamme. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue toujours, hein, comme je disais tout à l'heure. On se retrouve à avoir les technologies natives qui restent le haut de gamme où on a de la performance et surtout de la maintenabilité. C'est-à-dire qu'on a une solution native qui va fonctionner cette année, qui fonctionnera l'année prochaine et qui fonctionnera encore dans 5 ans. Ce qui n'est pas forcément le cas sur des solutions, notamment multiplateformes, qui bougent beaucoup.
C'est quoi le risque en fait d'une application qui ne bougerait pas pendant plusieurs années ?
Sur une application, on va avoir notamment deux choses. Le fait, si on a envie de commander des évolutions ou de voir évoluer sa plateforme, si on ne l'a pas fait régulièrement, on se retrouve à avoir le fameux « il faut tout redévelopper », ce qui est quelque chose qui est quand même pas souhaitable ni pour le client ni pour l'équipe de développement. Et après, on a des nouvelles contraintes qui arrivent progressivement sur les plateformes mobiles, notamment des contraintes sur la sécurité, des contraintes sur les données personnelles, RGPD. Donc là, on a la législation qui évolue, mais ça, c'est pour l'ensemble des développements et l'ensemble des systèmes. Mais on a également des contraintes de sécurité sur il faut maintenant qu'une application qui crée un compte doit intégrer un bouton, qui permet de demander la suppression de son compte. Et ça, si on ne fait pas évoluer son app et qu'on veut republier ou ajuster, on se retrouve à avoir le store qui peut dépublier une application qui n'a pas bougé depuis un certain nombre d'années parce qu'elle ne propose plus cette fonctionnalité. Donc on est obligé quand même de mettre à jour et de suivre les applications de par des contraintes, soit de développement, soit tout simplement les contraintes des stores.
Il y a la technologie, c'est-à-dire les SDK, ce que tu dis, les SDK, les librairies qu'on va pouvoir utiliser. Ça y est, maintenant on peut afficher sur, je sais pas, des écrans pliants, des choses comme ça. Mais il y a aussi tout ce qui se passe autour des stores. Apple et Android, ils ont quand même la main sur la manière dont on diffuse les applications vers les utilisateurs finaux.
Ouais, tout à fait. Donc, il y a la possibilité de déployer des applications directement à des collaborateurs d'une société sans passer par les stores, mais c'est quand même pas le cas le plus fréquent. Donc, on se retrouve contraint par les règles des stores. Et là, notamment, voilà, Apple serre beaucoup plus la vis que Google sur le sujet, mais les deux se tirent un peu la bourre en ce moment. Donc, publier une application, avant, on envoyait son APK ou son IPA, et puis c'était parti. Maintenant, il y a 42 questionnaires avec des fonctionnalités qui sont obligatoires dans les applications, sinon l'application se refuse.
Est-ce qu'il y a souvent des surprises là-dessus ? Est-ce que c'est... Ça se passe bien ou combien d'étapes ?
C'est l'avantage d'être des vieux dans le développement mobile, c'est qu'on a à peu près tout essayé, tout vécu. Et donc, en fait, quand un projet commence, on sait ce qui est possible ou pas possible. Donc, on se retrouve assez rarement le bec dans l'eau à la fin du projet en disant « bah finalement, on ne peut pas la publier ». C'est arrivé, on a récupéré des projets comme ça où les équipes, une équipe d'une autre société avait attaqué but en blanc le projet et à la fin, s'est retrouvé sans pouvoir livrer l'app. Si on réfléchit, qu'on lit bien les contraintes de développement, qui sont en fin de compte publiques et indiquées, hein, eh ben, on arrive toujours à une solution qui est valide. Donc nous, on a assez peu de problèmes de validation Apple ou Google, qui pourtant fait partie des sujets qui font le plus peur sur le développement mobile. On se dit, à la fin, je ne vais pas réussir à la publier parce qu'il y a la validation Apple et ça ne marche jamais.
Donc ça, c'est une bonne part de l'expérience aussi.
En tout cas, c'est une valeur ajoutée qu'on apporte, c'est-à-dire qu'on est capable de débunker le sujet dès le lancement plutôt que se retrouver en difficulté.
Ok.
Ouais, il y avait ta question sur les développeurs mobiles et qu'est-ce qu'un développeur mobile débutant par rapport à un développeur mobile expérimenté. Ça reste un sujet, même s'il est devenu mature, un sujet qui reste assez ardu. Un bon développeur mobile, ça prend plusieurs années pour arriver à un niveau qui est suffisant pour pouvoir traiter toutes sortes de projets mobiles. Si on prend des projets mobiles, vitrine, liste détail, c'est quelque chose qui peut monter assez vite en compétences et avoir des développeurs qui arrivent à s'en sortir sur des projets comme ça. Mais sur des projets avec du fonctionnement en tâche de fond, avec du Bluetooth, avec une synchronisation avec un serveur qui serait en live avec des notifs, etc. Là, on a un cumul de technologies qui nécessite un certain nombre d'années de pratique.
Donc, il y a des sous-disciplines dans le développement mobile ?
Alors, le développement mobile, pour l'instant, en tout cas le choix qu'on a fait chez Openium, c'est d'avoir, si on essayait de faire un parallèle avec le développement web, on essaierait d'avoir des développeurs full stack. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire à la fois l'interface mobile, que ce soit sur iOS ou sur Android, le développement des fonctionnalités de l'application, la synchronisation réseau et l'échange avec un appareil en Bluetooth, par exemple. Donc on a quelqu'un qui va intervenir sur les différentes strates. Certaines sociétés, alors pas Openium, nous on est resté vraiment une approche full stack, certaines sociétés commencent à spécialiser des développeurs mobiles sur la partie front et interface,
okay.
Et d'autres sur la partie plus back. Si on fait toujours le parallèle web.
On va retrouver un découpage front, la partie visible, back, la partie cachée des applications.
Ouais, c'est ça.
Ok, comme on la connaît côté serveur. Quoi. À quoi ça ressemble à un projet qui vous arrive ? C'est quoi les premières questions que vous allez vous poser ? C'est quoi les incontournables pour lancer correctement un projet avec Openium ?
La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec l'application ? Chez Openium, avec l'expérience qu'on a accumulée, les contraintes techniques, bien sûr, on va les identifier au début du projet, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est quel service on va vouloir apporter aux utilisateurs. Et donc, ça va être le centre de notre discussion et la technique en découlera. Ça, généralement, voilà, avec les experts qu'on a, il n'y a pas trop de problèmes derrière. Mais c'est vraiment la première question à se poser quand on est porteur de projet ou qu'on a un projet mobile, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va le faire. Donc nous, soit on accompagne et puis on met en place une démarche UX pour aller gratter le besoin et proposer une interface, une ergonomie, une solution carrément qui va répondre à ce besoin-là d'un client.
Du coup, pourquoi est-ce qu'on fait des applications mobiles aujourd'hui en 2024? C'est quoi le cas d'usage, le lieu où on se dit là, c'est une application mobile qui répond à ce type de besoin?
Alors, il y a souvent des besoins, alors si on regarde sur des applications type professionnel, ça va être des besoins de mobilité. Bon, application mobile, mobilité, on peut se dire que c'était évident. On se retrouve à avoir, par exemple, des commerciaux qui sont en voiture, qui vont voir des clients. On a vu ça pour un client local. il y a besoin d'accéder au système d'information et de répondre à un besoin lorsqu'on est face au client, de répondre à ses questions, de lui proposer des choses, etc. Ils avaient des tablettes Windows qui mettaient 2 minutes à démarrer, sur lesquelles il y avait des ergonomies qui n'étaient pas forcément adaptées à un rendez-vous client. Donc là, on se retrouve à avoir une solution métier spécifique où il y a un besoin de productivité, il y a un besoin d'accéder aux données rapidement, il y a un besoin de notification. Et là, on coche à peu près toutes les cases d'une application mobile professionnelle.
Ok, donc on va vraiment chercher de l'efficacité avec des parcours très, très optimum pour couvrir des cas qui se répètent et qu'on maîtrise. Ouais.
Là, Openium étant spécialisé sur les applications mobiles sur mesure, ben effectivement, ce genre de cas-là, ça nous parle directement. On va aller proposer une solution mobile qui est adaptée à un souci de performance et d'efficacité, de productivité des collaborateurs d'une entreprise. À l'opposé, on se retrouve à des applications qui sont grand public, sur lesquelles ben, voilà, enfin, on a tous une application mobile sur notre smartphone, donc vous voyez bien ce que c'est. Ça va dépendre de l'usage, mais il y avait une tendance il y a quelques années à dire que les applications mobiles allaient disparaître au profit d'une application qui ferait tout, les assistants vocaux, on va demander à Google de le faire pour nous, il n'y a pas besoin d'app. Finalement, ça ne s'est pas encore produit, je ne suis pas sûr que ça se produise. On a effectivement, voilà, quand je rentre chez moi, je demande à mon Google Assistant ou Alexa d'allumer la lumière et je ne vais pas aller lancer mon application Enki.
Toi, personnellement ?
Moi, personnellement, ouais, je ne vais pas aller lancer mon application Enki pour aller allumer la lumière chez moi. Mais par contre, j'ai toujours besoin d'une application Enki, Philips Hue, Somfy ou autre pour configurer. C'est l'appareil connecté que j'ai chez moi. Et donc, en fin de compte, ces applications ne vont pas forcément faire on-off et avoir une application assez simple qui permet de piloter. Par contre, je vais avoir besoin de configurer, je vais avoir besoin de créer des scénarios, je vais avoir besoin de faire du pilotage avancé. Donc, on se retrouve à avoir des applications qui n'ont pas été remplacées par des assistants vocaux, mais on a une application qui travaille avec un assistant vocal, par exemple.
Alors ça, c'est vraiment le cas IoT qu'on connaît bien et qui a fait qu'on s'est découvert aussi, je pense, sur les années passées à faire des projets ensemble. C'est vrai que donc Ayrton, on travaille beaucoup la partie objet ou la partie service d'un produit connecté. Et cette application mobile Compagnon, moi, ma lecture, c'est qu'elle arrive beaucoup chez les fabricants de l'équipement qui veulent maîtriser toute la chaîne et l'UX général du produit, mais aussi de ce que va utiliser l'utilisateur en dernier ressort pour le contrôler, quoi. Et que l'application mobile, même par rapport au web, donne un cran encore plus de contrôle sur la réactivité, le parcours utilisateur.
L'application mobile, c'est l'instantanéité, c'est la personnalisation. On se retrouve à beaucoup de choses où on est beaucoup plus proche des utilisateurs que sur un site web, beaucoup plus accessible. Quand on regarde les temps d'utilisation, voilà, les seules applications utilisées par les utilisateurs, c'est WhatsApp, Insta et TikTok. Sauf que oui, on y passe des heures. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas lancé pendant 10, 15, 20 secondes une application 3, 4, 5 fois par jour, qui est donc totalement ancrée dans le quotidien des utilisateurs et qui est fondamentale pour nos différents besoins. Alors oui, je ne vais pas passer longtemps dessus, mais par contre, elle est sacrément utile. Donc voilà, il faut aussi faire gaffe à ces statistiques qui disent que tout est remplacé par TikTok. Sur les temps, oui. Par contre, sur l'utilisation, non.
Alors une question un peu pour rembobiner sur ces histoires de cross-platform. On entend beaucoup parler d'outillage, enfin, ça fait un certain temps déjà, mais des outillages de low-code ou des choses pour générer des applications de manière plus rapide, de manière plus accessible pour des gens qui seraient moins experts. Où est-ce que tu places ça dans la boîte à outils du développeur mobile expérimenté? Est-ce que ça a sa place? Est-ce que ça n'a pas à sa place? C'est quoi pour toi l'avenir, ce type de solution?
Si on regarde ce qui s'est passé sur le développement web, on est passé d'un monde d'experts qui devaient sortir des sites web sur mesure, y compris pour des fonctionnalités simples, vers du WordPress. Donc WordPress, ça permet d'avoir une base qu'on va aller personnaliser et donc qui répond à une bonne partie des besoins des sites web. On ne va pas aller dans le débat de est-ce que WordPress peut tout gouverner, mais ce n'est pas trop la question, mais c'est juste pour donner une idée. Le développement mobile ne propose pas encore des solutions aussi complètes que WordPress. Donc il n'y a pas de WordPress du développement mobile. Par contre, il y a des solutions qui vont permettre de répondre à des besoins spécifiques ou relativement larges. Mais par exemple, un restaurant, est-ce qu'il doit développer son application mobile? Est-ce qu'il ne peut pas soit se baser directement sur ce que propose Google avec les actualités, la mise en avant du menu et tous les détails qu'on retrouve tout simplement en faisant une recherche du restaurant sur Google? Il y a également des solutions qui vont être spécifiques pour les restaurants. Donc là, je crée une application, mais qui est en fin de compte la même pour tout le monde avec on change la couleur, on change le logo, et j'ai mon application sur laquelle je vais aller rajouter mes menus, un compte client, voir ma réservation, etc. Et dernière approche, je peux par exemple utiliser la fourchette carrément, pour réserver son restaurant et avoir la fiche du restaurant. Donc, il y a des solutions qui sont en train de compléter et d'une certaine manière, pour certains clients en particulier, remplacer une application mobile dédiée sur mesure pour tel et tel client. Par contre, il reste encore énormément de besoins de développement d'applications sur mesure pour créer une proximité avec le client pour des fonctionnalités bien précises, pour un cabinet de gestion de patrimoine par exemple. Il peut très bien se contenter d'avoir une application qui ressemble à celle d'un restaurant, mais s'il a envie d'aller plus loin sur le contact avec ses clients, bah là par contre, il faudra qu'il développe une application sur mesure.
Ok, et c'est intéressant, ouais, ce que tu dis, c'est les usages qui sont basiques et récurrents trouvent aussi leur place dans des plateformes aujourd'hui, dans des plateformes au sens, tu parles de Google, Google Maps ou La Fourchette ou des choses comme ça. Donc, je suis restaurateur et je veux avoir une présence en ligne et dans les mains sur les smartphones. Bah, je vais être appelé aussi sur ces plateformes-là qu'on fait une application, qu'on était peut-être fait justement en natif et ultra affiné pour l'UX, mais je vais me retrouver dans un inventaire à côté de plein d'autres personnes. Et à l'extrême opposé, si j'ai des besoins super spécifiques, je vais avoir du développement peut-être complexe qui demande du natif. Et du coup, l'entre-deux est tiré un peu sur ces deux dimensions.
Oui, alors pour pas revenir spécifiquement sur les technos de construction d'applications, mais c'est vrai que si on regarde les strates, hein, ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment des applications entrée de gamme avec voilà, des sites web responsifs qui répondent tout à fait à un besoin. Entrée de gamme, c'est pas péjoratif, c'est vraiment dans le coût et la complexité de développement. Les solutions intermédiaires avec du React Native, du Flutter, qui permettent d'utiliser des technos web pour développer des applications mobiles. On devrait gagner un petit peu en coût de développement, on va le perdre en maintenance et en mise au point, mais ça c'est un autre débat. Et les applications natives qui vont demander un coût peut-être plus important, mais sur lequel on a vraiment accès à l'intégralité des fonctions du système d'exploitation, et donc une application qui, si elle est bien réalisée, sera au top de la qualité et de l'ergonomie.
Alors tu dis c'est un autre débat, mais alors parlons-en. C'est quoi la différence entre une application mobile bas de gamme, pas cher, quelques milliers d'euros, et une application mobile à plusieurs centaines de milliers d'euros? Qu'est-ce qu'on va retrouver de différent dans l'application, mais dans le projet même au sens large?
Alors là, avec les échelles de coûts que tu me donnes, on compare une application mobile avec souvent une solution.
Oui.
La solution, on va avoir l'application mobile, mais aussi le serveur, l'interconnexion avec d'autres systèmes d'information et qui répond à un besoin complet et qui va demander plusieurs années de développement. Donc ça, c'est une application mobile simple qui va juste afficher des données. Là, on a la capacité à utiliser à peu près maintenant, pour être honnête, hein, n'importe quelle technologie, on va arriver au résultat. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, notamment avec l'arrivée de React Native et de Flutter. Quand on arrive sur une solution qui nécessite plusieurs mois, années de développement et sur laquelle on est avec des chiffrages effectivement de plusieurs centaines de milliers d'euros, là, on se retrouve à avoir un besoin qui est tout autre en tant qu'agence de développement, mais aussi en tant que client. On a besoin de développer une solution qui est pérenne. Solution qui est pérenne, c'est qu'elle utilise des technologies qui vont pouvoir être maintenues dans le temps, qui sont fiables, qui sont performantes. Et là, en fin de compte, sur des projets de cette ampleur, le coût du développement n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on répond aux besoins de l'utilisateur? Le sujet, c'est est-ce que la solution que j'ai développée là, dans 2 ans, je vais être obligé de tout jeter parce que j'ai fait un choix techno? Et ça, c'est vraiment, pour moi, le point clé entre des petits projets et des grands projets, entre un petit projet jetable ou qu'on fera évoluer à la marge et un gros projet sur lequel il va falloir utiliser des technos matures qui vont me permettre de faire évoluer mon projet pendant de nombreuses années. Et ça, c'est un des points clés. Et là, clairement, le choix du développement natif est à privilégier. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait des développeurs qui passent un peu plus de temps et que ça coûte un tout petit peu plus cher pour développer une application qui soit au top et faire bénéficier à des dizaines de milliers d'utilisateurs une application performante qui ne consomme pas trop de batterie? Ou est-ce qu'il a fallu économiser quelques milliers d'euros et se retrouver avec une application moyenne? Il vaut mieux certaines fois que les développeurs y passent un peu plus de temps et qu'on ait des utilisateurs satisfaits.
Du coup, autour du développement, dans une équipe projet complète au sens large, c'est-à-dire des équipes qui serait chez Openium, mais aussi du côté du client. On trouve quoi comme rôle, comme responsabilité sur une application comme ça d'envergure, pérenne, où il y a de l'activité tous les mois?
Alors, nous, on est un peu particulier parce qu'on a la chance d'avoir des développeurs et des équipes qui sont très expérimentés. Si on prend une équipe de dimension moyenne avec des gens qui sont peut-être un peu moins expérimentés que des Openium, il va falloir, donc, bien entendu, et ça, c'est le cas chez Openium, mais aussi chez le client, quelqu'un qui va être en charge de l'UX et de lui. Quand on demande à des développeurs de faire des interfaces mobiles ou web, bon, voilà, je vois ton sourire que nos auditeurs ne verront pas, mais voilà, ça peut être perfectible. Donc nous, on a fait le choix d'avoir quelqu'un en interne qui fait ça. Et il y a besoin de demander à un designer de travailler sur les fonctionnalités et sur le design, car c'est un point qui est très important quand on est sur une application mobile. Autre chose, il va falloir avoir des développeurs. Donc chez Openium, on a 3 familles de développeurs. Des développeurs iOS qui vont faire que de l'iOS par souci de productivité et d'efficacité et de connaissance de la plateforme. Des développeurs qui vont faire que Android pour les mêmes raisons. Et on a chez nous donc, des développeurs web qui vont aller faire des parties interconnexion des données avec les applications mobiles, mais aussi les interfaces d'administration. On rajoute à ça un chef de projet qui va être là pour faire l'interface entre le client et les équipes de développement afin de fluidifier tout ça. Donc ça, c'est un projet qui est très classique, hein, qu'on a chez Openium, mais qu'on trouve chez d'autres agences. Pour nous, c'est le minimum pour développer une application. Donc quelqu'un qui va faire de l'UX et de l'UI, quelqu'un qui va faire l'application mobile, quelqu'un qui va faire l'application iOS, et si besoin, une autre personne qui va faire tout ce qui est web et interface, tout simplement parce qu'il faut bien qu'il y ait les données qui soient affichées au sein des applications mobiles. Le chef de projet étant, comme d'habitude, juste quelqu'un qui est là pour faire en sorte que tout se passe bien.
Ok, c'est clair.
Si on revient et qu'on utilisait une solution multiplateforme, il ne me faudrait pas un dev iOS et un dev Android. En théorie, j'ai juste besoin d'avoir qu'un seul développeur qui va faire les deux. Chez Openium, on a fait le choix d'avoir un dev iOS qui fait que l'iOS, un dev Android qui fait que l'Android. Si je suis en multiplateforme et j'ai fait par exemple du React Native, ça me coûte moins cher parce que j'ai qu'un seul développeur.
Alors justement, pour rentrer peut-être un petit peu dans le détail sur la partie tech, iOS et Android. Alors déjà, première question, est-ce qu'il y a d'autres plateformes à considérer aujourd'hui ?
Non.
Un développement Android et un développement iOS, est-ce que, de ce que vous voyez, quelle différence vous mesurez ? Est-ce que ça a évolué dans le temps ? Deux développeurs qui partent avec le même cahier des charges, ça donne quoi ?
Deux développeurs qui partent avec le même cahier des charges, donc comme je vous l'ai dit, on fait du développement natif, c'est-à-dire qu'on va avoir un dev iOS qui attaque son projet, un dev Android qui attaque son projet, ils sont côte à côte. Qui est-ce qui va finir en premier ? Pendant des années, c'était le dev iOS. Le dev iOS, il y avait une plateforme qui était un peu plus stable, un peu plus efficiente, notamment sur la conception d'interface, et donc en fait, il va finir entre 20 et 30% avant le dev Android, ce qui est un gap qui est assez énorme, parce que la plateforme Android est un peu plus complexe, un peu plus, voilà, il y a plus de devices et un certain nombre d'outils que nous fournit Google sont pas toujours très très fiables. C'est en train de s'estomper et notamment avec les nouvelles techno, donc Kotlin et Compose sur Android, on se retrouve à avoir un développement Android qui reprend un peu du poil de la bête et qui va se terminer soit en même temps, soit 10% après le dev iOS. Donc ça, c'est des évolutions techno qui facilitent grandement la vie des développeurs Android et qui nous permettent de limiter cet écart. Chez Openium, de toute manière, une application iOS ou une application Android, c'est le même coût. C'est juste qu'après, on prend sur notre marge pour arriver au résultat. Si on a une équipe multiplateforme, c'est un choix techno qu'on aurait pu faire. En fait, pour faire une bonne application mobile en multiplateforme, il me faut, sur du React Native par exemple, il va me falloir un bon dev iOS et un bon dev Android qui vont travailler sur le multiplateforme. Parce que dès qu'on arrive sur de l'interconnexion un peu poussée avec le système, faut connaître bien Android et faut connaître bien iOS. Donc là, moi, j'ai personnellement un peu plus de mal à envisager une solution multiplateforme où en fait, il faut connaître parfaitement la plateforme et il faut être un dev mobile iOS ou un dev mobile Android pour bien développer du multiplateforme. On a fait des essais chez Openium là-dessus et on a mis notre meilleur dev iOS pour faire un prototype en React Native. Dès qu'il s'agissait de faire de la mise au point ou des trucs un peu particuliers sur Android, il est allé voir l'équipe Android.
Quand tu parles d'accès système, des choses plus bas niveau, pour parler de choses spécifiques, il y a un sujet qui a l'air de beaucoup revenir, qu'on rencontre dans nos contextes, c'est toute la partie connectivité Bluetooth, puisque dans le cas d'un produit connecté, souvent il y a cette phase où l'application parle en direct à l'équipement qui vient d'être sorti du carton pour être configuré, par exemple, etc. Donc ça revient beaucoup, les discussions autour du Bluetooth et de ce lien-là, ça a l'air d'être assez sensible et difficile à gérer du coup en cross-platform.
Ouais, alors c'est déjà assez difficile d'arriver à mettre au point et de faire une application mobile qui marche en utilisant les outils natifs fournis par Apple et par Google, qu'en multiplateforme, des fois c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc c'est sûr qu'on arrive à faire des choses, mais notamment sur Android, qui est une plateforme qui a une plus grande variété de devices avec des constructeurs qui ne sont pas tous extrêmement respectueux des normes, on se retrouve à avoir une application Android sur la partie Bluetooth qui va être assez difficile à mettre au point. Avec un nombre de devices connectés simultanés qui ne va pas forcément être le même sur tous les devices Android, avec des connexions, on a des notifs qui sont censés arriver, des fois qui n'arrivent pas. Donc voilà, ça c'est quand même assez délicat et c'est quelque chose qu'on a appris dans le dur chez Openium. Les dev iOS, ça se passe vachement mieux quand même.
Tu parles des différences entre constructeurs. On entendait beaucoup parler à un moment donné de l'hétérogénéité du parc Android, de la fragmentation. C'est une réalité encore ça ? Ou c'est moins un sujet ? Comment ça a évolué ?
Alors sur la partie Bluetooth, ça existe toujours. Et c'est toujours délicat. Sur la partie travail en tâche de fond, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas mon application de lancer, mais elle continue à s'exécuter en arrière-plan pour faire des traitements. On avait eu le cas voilà, sur un projet DDI pour Michelin, sur lequel il fallait que, lorsque je rentre dans ma voiture, mon application se lance et se connecte à un boîtier d'analyse de conduite sans que je fasse rien. On regarde la documentation, on met en place tout ce qu'il faut, ça marche très bien sur un Pixel, ça marche pas sur tous les autres appareils, Samsung, Xiaomi, Huawei, etc. Alors que la doc Android dit que si on fait ça, ça posera pas de problème. Donc on se retrouve à avoir des gens, des constructeurs, y compris Samsung, hein, qui ne respectent pas la documentation et les règles Android. Donc ça, c'est quelque chose qui est délicat pour un développeur. Sur iOS, aucun souci, on regarde la doc, ça se passe comme ça, ça marche. Sur Android, on a des problèmes de fragmentation qui sont des choix délibérés des constructeurs, hein, qui tuent toutes les applications en arrière-plan pour dire qu'ils ont plus de batterie que leurs voisins. Si on enlève ces parties-là, travail en tâche de fond et sur certaines parties de Bluetooth, maintenant la fragmentation Android n'est plus un problème. On a ce qu'on appelle les Play Services, qui est une application installée automatiquement par Google et qui va uniformiser les développements. Depuis Android 6 jusqu'à Android 14, je peux développer de la même manière et c'est à cette bibliothèque fournie par Google et donc à Google de se débrouiller pour que ça marche pareil.
Ok, donc si je comprends bien, ça c'est quand même beaucoup amélioré. Il reste quelques sujets qui sont assez critiques. Et donc si on les a dans notre application mobile, si c'est un sujet qui est abordé dans l'application mobile, bah, c'est quelque chose auquel il va falloir se confronter. Et comment on se confronte à ce type de sujet du coup? Il y a l'expérience d'avoir rencontré les limites de Samsung, de Xiaomi, etc. pour faire la tâche de fond et du Bluetooth. Comment vous abordez ça, vous?
Alors, nous, comme je disais, on l'a abordé dans la difficulté, c'est-à-dire qu'on a été confronté au départ des problèmes qu'on n'imaginait pas. Et maintenant, on est capable, sur un projet, de, voilà, comme je disais, comme pour les validations store, de sentir ce qui va bien se passer ou mal se passer. Mais de toute manière, ça se gère avec une bonne connexion et une bonne communication entre les équipes mobiles et les équipes firmware. Donc ça, c'est quelque chose avec Ayrton qui s'est toujours très très bien passé. C'est-à-dire que les configurations du Bluetooth côté device, mais également les tailles de MTU, les fréquences de rafraîchissement, de notification intervalle, bah ça s'est toujours très bien passé. Donc en fait, si on arrive à faire communiquer un dev mobile avec le développeur embarqué, on se retrouve à avoir déjà un projet qui part à peu près bien. Et après, la deuxième solution, c'est de tester, de tester, de tester et de tester. Donc nous, on a voilà, une trentaine de devices qui sont là et on a acheté tous les devices problématiques qui nous permettent de valider que en Bluetooth, eh ben, ça va bien se passer, y compris avec ce device-là. On se retrouve hein, même dans une marque à avoir un modèle qui est le petit mouton noir de la famille et qui va poser plus de problèmes que les autres.
Ok, donc là, j'imagine que c'est là où on voit la différence entre une application pour laquelle on aura investi pour la qualité, à passer ce temps, enfin c'est du temps à passer en test, l'outillage, etc., versus faire le développement qui marche, qui a l'air de marcher sur mon poste, et découvrir plus tard...
Ouais, qui marche sur mon poste ou qui marche sur mon Pixel. Voilà, il y a une grande différence, et donc une différence de coût et de temps projet entre une application qui fonctionne comme ça rapidement et qui fait le taf, et une application qui va fonctionner dans tous les cas, avec un parc très hétérogène. Par exemple, une application mobile, je la lance, je verrouille mon écran, qu'est-ce qui se passe? Quand je développe et que je réalise mon app sur mon bureau et que je livre ça, est-ce que j'ai bien pensé à ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe quand je reçois un coup de fil et que je suis en train de consulter mon application qui était en train de synchroniser des données métiers sensibles à un serveur? Si on ne fait pas gaffe, il n'y a plus rien qui s'upload et puis on a perdu les données. Donc c'est ce genre de petites problématiques qu'on n'a pas forcément sur un site web et qu'on va avoir sur le mobile. Je vous disais une contrainte batterie, mais il y a aussi une contrainte d'événement. Je suis en train de faire quelque chose, je branche mon téléphone sur ma voiture, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, tous ces cas-là, c'est des cas complémentaires dans le développement qui sont à gérer et qui vont transformer un projet qui est assez simple en une application mobile complète, utilisable dans tous les cas.
Est-ce que tu vois des choses de ce domaine large du développement mobile, des connaissances, des expertises, des expériences qui pourraient bénéficier à d'autres métiers du logiciel autour? Alors, si je mentionne les autres métiers qu'on a plus chez Ayrton, du développement embarqué vraiment sur de l'objet ou du développement plutôt côté serveur?
Il y a toujours un élément qui est important qui est la partie ergonomie, mais ça vaut pour tous les métiers. Et donc, l'ergonomie et l'interface sur une application mobile est plus importante que sur d'autres domaines. On a vraiment une proximité avec l'utilisateur, il va s'en servir, il la lance, il veut que ça marche instantanément, etc. Donc tout ça, c'est des contraintes ergonomiques et techniques pour que quand je clique sur mon icône, j'accède à la fonctionnalité attendue par l'utilisateur en un minimum de temps. Donc ça, c'est un des points qui devrait être pris en compte sur l'ensemble des applicatifs développés dans le monde. C'est obligatoire sur une application mobile.
Le niveau d'exigence des utilisateurs d'applications mobiles est plus haut, tu penses?
Ouais. Tout simplement, hein, on n'a jamais envie d'attendre longtemps. Quand on est avec un clavier et une souris, bah, on n'a pas la même exigence que quand on est à 30 cm du device avec un doigt et qu'on est dans le métro et qu'on a envie de pouvoir faire le truc tout de suite et que ça marche. Donc on se retrouve aussi à avoir sur le développement mobile une sensibilité à l'optimisation. C'est quelque chose qui se perd dans le développement, il y a toujours la possibilité de prendre un serveur plus gros ou plus de RAM ou une connexion réseau plus grosse. Sur le développement mobile, on doit garder en tête le facteur limitant. Il y a bien sûr la taille d'écran, l'ergonomie. Il y a bien sûr les capacités réseau. On n'est pas toujours en 5G. Mais il y a surtout le facteur limitant, c'est la batterie. On a envie que lorsqu'on lance une application, elle vide pas sa batterie en 20 minutes. Et ça, c'est de l'optimisation logicielle, c'est de l'optimisation réseau. Et un développeur mobile, je pense, a pas mal de choses à apprendre à d'autres métiers là-dessus.
Ça fait complètement écho à ce qu'on vit. Effectivement, moi qui viens il y a quelques années du monde, plutôt du mode du cloud et qui découverte la partie embarquée, cette sobriété, qui est un mot ultra à la mode, cette sobriété du développeur embarqué, alors côté mobile, mais qui existe aussi pour ceux qui développent pour du microcontrôleur, compter ces tableaux de kilooctets, de RAM, etc. C'est tellement un grand écart par rapport à la culture qui change, mais qui existe côté cloud. On a parlé de la big data, où on ne comptait pas les terabytes, etc. Effectivement, la migration vers le cloud, le fait de se dire « je vais faire grossir mon serveur, ma base, etc. » pour quelques dollars par mois en plus, je n'ai pas besoin de compter ma RAM. C'est un tel grand écart que forcément, ça soulève énormément de questions.
Ouais, alors, on se retrouve quand même sur du développement mobile. On avait à une époque ces besoins d'optimisation. Il y avait des structures de données qui étaient fournies par Apple et par Google qui étaient plus efficientes que ce qu'on trouvait sur une implémentation Java standard. On en est sorti avec les applications mobiles. On a 8 cœurs qui tournent à 2,5 Go avec 12 Go de RAM. Bon, on est assez loin des contraintes de l'embarqué. Par contre, une application mal développée qui peut être optimisée restera lente, consommateur de batterie, éventuellement consommateur de réseau. Et donc, on a des contraintes qui sont moins grandes que ce qu'on a sur du développement embarqué, domaine que vous connaissez bien mieux que moi. Mais par contre, les principes restent les mêmes. Il faut qu'on optimise, que ce soit sur l'embarqué ou du mobile, et surtout pas faire n'importe quoi parce qu'on va vider la batterie de l'utilisateur et son forfait.
Ok, super intéressant. Alors peut-être une dernière question un peu ouverture. Est-ce que tu vois des choses qu'on fait aujourd'hui et qu'on fera différemment dans quelques années? Est-ce que tu sens des choses qui vont changer, qui sont déjà en transformation ou qui devraient être en transformation et qui tardent?
Alors, je pense vraiment que développer une application mobile sera de plus en plus simple, entre guillemets.
Okay.
Quand on regarde à quel point c'était difficile il y a quelques années d'arriver à une solution fonctionnelle, maintenant ça va quand même un peu mieux. Si on laisse de côté les quelques problématiques qu'on a évoquées précédemment. Donc ça devrait quand même aller dans le bon sens. On se retrouve toujours avec deux plateformes, iOS et Android, qui, par des choix, ne seront pas compatibles. Pour faire des applications simples, on aura de plus en plus d'outils qui seront sur le marché et qui me permettront de développer mon application mobile assez facilement sur les deux plateformes. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses qui vont apparaître dans les prochaines années, tout en gardant, au même titre qu'il y a encore de la place sur du développement mobile, du développement web sur mesure, sur des solutions très particulières, il y aura toujours de la place pour les agences comme Openium qui font du développement mobile natif sur mesure. Mais voilà, on va avoir une démocratisation, on l'a déjà eu, parce que maintenant on a tous des smartphones dans nos poches. On aura aussi, côté développement, une simplification technique qui nous permettra de nous concentrer encore plus sur les besoins des utilisateurs et sur apporter de la valeur dès le début du projet, parce que les contraintes techniques sont derrière nous. Il y a aussi donc des évolutions qui sont présentes aujourd'hui, mais qui vont se répandre. Dans nos voitures, maintenant, on a de l'Android Auto. Sur certaines, on a de l'Android Automotive. On a du CarPlay, on a nos montres connectées. On a plein de choses qui vont continuer à se développer dans l'écosystème mobile. Et là, j'ai hâte de voir ce qui va arriver.
Eh bien, écoute, on verra tous ensemble. Merci beaucoup, Olivier, pour cet échange.
Merci, Charles.
L'épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez le podcast autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.